Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, Ka Ohanui, et bienvenue dans cette 17e émission.
Édition 2023.
Rappelez-vous, la dernière fois, nous avions examiné les différentes catégories de victimes et les rites spécifiques à chacune de ces catégories de victimes humaines. Aujourd'hui, en faisant la synthèse de tout ce que nous avons vu dernièrement, nous allons observer comment, au fil des années et des bouleversements profonds de la société Enana, les sacrifices sacrés se sont mués en assassinats profanes, aggravés par l'alcoolisme généralisé. Nous terminerons l'émission en nous penchant sur les chants païens exécutés lors des sacrifices humains. Les anciens Enana nommaient la chasse aux victimes « ikahano », c'est-à-dire recherche de poissons, pêche aux poissons. C'était la métaphore, le symbole d'une activité profane, prenant une dimension sacrée par le biais d'une cérémonie religieuse violente. Écoutons ce que Greg Denning nous dit sur la métaphore de la pêche aux poissons. La chasse à l'homme, ikahano, était l'acte le plus violent commis envers un individu. Il fut capturé entre 50 et 100 heaka, victimes humaines par an, dans toutes les îles, entre 1798 et 1842, soit un total de 2000 à 4000 victimes. Comme nous l'avons déjà vu, les poissons ika, capturés lors d'embuscades et au cours de raids, étaient généralement des profanes, mais iye, des kikino, personnes non tapes ou au teint bronzé ou sombre. Noir était synonyme de commun et ordinaire. Ceux qui ne possédaient pas de terre, ceux qui travaillaient sur le rivage ou à des tâches subalternes exposées au soleil, ceux-là avaient le teint basané. Ils étaient presque noirs, ordinaires, kikino. Ils étaient différents de ceux de la classe tapu qui restaient dans leur case pour se protéger du soleil ou qui avaient les moyens de se décolorer la peau avec le jus de la liane papa lors des fêtes. Les kikino constituaient le vivier dans lequel les enata pêchaient leur heaka. Le statut de victime heaka leur conférait une promotion sociale, mais seulement après leur mort, car la peinture rouge dont on les maculait leur conférait le tapu. Leur nouvelle couleur de peau les assimilait aux hakaiki, les chefs, et aux taua, les grands prêtres, pour lesquels on les sacrifiait, ce qui leur valait l'entrée dans les régions les plus favorisées du séjour des morts antiques, le havaiki. Vivants, ils étaient ordinaires. Mort, il devenait sacré. Comment maintenant est-on passé du sacré au profane? Avant 1850, en gros, même si les Enata manifestaient de la joie féroce devant le cadavre de Heaka, les victimes étaient investies de dignité et de prestige. La mort leur conférait le caractère tapu à l'égal du Hakaiki. Comme nous l'avons vu la fois passée, les mères, femmes, filles de la victime pouvaient venir pleurer le mort, elles aussi devenaient tapu en se couvrant le corps de noir de charbon de bois, y traçant des croix rappelant la forme du kopeka, ce martinet salangan des marquises dont elles chantaient l'incantation kopeka kaahuahi, la salangan noire de fumée. Après 1855, la situation évolue progressivement. Au cours des années 1830, les serviteurs hawaïens et tahitiens des pasteurs protestants avaient enseigné aux Enana comment faire de l'alcool à partir de nombreux fruits de l'archipel. Ils leur avaient aussi appris à récolter le jus au bout entaillé des inflorescences de cocotiers et à le distiller pour en faire le puissant alcool de coco, namu-ehi. Après 1855, la distillation d'alcool de coco, namu-ehi, a gagné toutes les îles. Or, si le kava était tapu pour la majorité des gens, il n'existait aucun tapu concernant l'alcool. Tout le monde pouvait en boire, du premier hakaiki au dernier des kikino. Sans tapu local ou administratif pour en réguler la fabrication, les Enana en font rapidement un usage abusif qui, en quelques années, modifie leur comportement, en particulier dans l'art de tuer. L'alcoolisme est devenu un tel fléau qu'en 1856, afin de réagir à cette situation, deux grandes prêtresses, Tau'a, imposent un tapu sur le Namu'ehi. Il s'agit de Tau'a Hanatiki de Fatu'iwa et de Papahu de Hiva'oa, dont l'ordre est respecté pendant 10 ans, jusqu'à la mort de la deuxième. Mais l'alcool continue à circuler et à propager son œuvre destructrice. Les rapports des missionnaires de l'époque sont composés de listes de meurtres et d'assassinats sanglants, suivis de repas cannibales, tout aussi violents. Écoutons à nouveau Greg Denning. Les bacchanales sans fin se terminent dans le sang, et le sort réservé aux victimes n'a plus rien à voir avec la quête de Heaka, victimes humaines. La violence n'était plus fondée sur les traditions déjà disparues. Les Heaka n'étaient plus des victimes sacrificielles. On ne les gardait plus à l'intention des dieux. Si on les mangeait, on n'y mettait plus les formes, ni ne leur accordait la vénération dont ils étaient traditionnellement entourés. Les morts étaient mangés dans un esprit de violence et de vengeance. Si les victimes étaient vivantes, on les mettait à mort sans leur épargner la souffrance, et la seule cérémonie était celle de voir la souffrance des victimes. Ils étaient mangés comme si, en eux, se cristallisait toute la haine. Les chiens se partageaient leurs carcasses, leurs os s'étaient dispersés avec indifférence. Fin de citation. Au cours des années 1870, la situation s'est considérablement dégradée à Hiva'oa. L'île est éloignée de l'administration siégeante à Taiohae, elle est aussi 3 fois plus peuplée que cette dernière. L'alcool, les maladies et la colonisation ont fait perdre ses repères à la population qui, petit à petit, rejette l'autorité étrangère pourtant lointaine. Le vent de la révolte commence à souffler sur Hiva'oa. La campagne militaire de 1880 y mettra un terme. La pacification sera suivie d'un état de siège de 2 ans, au cours desquels les dernières velléités de révolte Enana seront à tout jamais enterrées. Écoutons à nouveau Greg Denning. Peut-être devrions-nous croire les témoins et les affirmations par oui-dire selon lesquelles les Enata consommaient leurs victimes avec un plaisir barbare. Peut-être devrions-nous nous dire qu'ils modéraient la cruauté de ce rituel en lui donnant une signification hors du commun par le tapu et l'invocation de leur etoua qui les rendait compréhensibles à eux seuls. Ils introduisaient ce rituel dans le domaine du sacré en l'expliquant par des chants et des danses. Grâce à des documents anciens, nous pouvons avoir un aperçu des chants et des danses exécutés lors des sacrifices humains. Bien sûr, il ne reste pas de traces vidéo de cette époque-là, mais ce sont des traces écrites qui nous sont parvenues. Dans son ouvrage déjà cité, Dominique Pechberti nous décrit un certain nombre de chants entendus lors de sacrifices humains. Comment est-ce possible ? Eh bien,
de mars à décembre 1849,
le capitaine de frégate Charles-Henri Noury, N-O-U-R-Y, est commandant particulier des îles Marquises, administrateur des îles Marquises, et c'est lui qui les a recueillis dans l'archipel. Il les a retranscrits, essayant de les traduire et de les commenter, puis il les a transmis au commissaire de la République à Tahiti le 2 novembre 1849. Ils ont ensuite été publiés dans le bulletin de la Société des études océaniennes, la SEO, au numéro 25, avec les références 51-56, tome 3, Papeete, 1926. Lorsque j'ai découvert ces chants sacrificiels dont les paroles sont imprimées noir sur blanc, j'ai été troublé de pouvoir lire ainsi des mots réservés à l'usage des prêtres anciens. Très vite, cependant, je me suis heurté à des problèmes de compréhension. En effet, les chants ont été retranscrits d'une manière qui n'est pas conforme à celle dont on écrit le marquisien de nos jours. Des mots ont été coupés, d'autres ont été collés. Donc il est très difficile, pour un non-marquisien comme moi, de comprendre ce qu'il y a de caché derrière ces mots. Pour les marquisiens d'aujourd'hui, cependant, dont certains sont passionnés de culture ancestrale, ces chants représentent une source rare d'informations précieuses à laquelle, j'espère, un jour, ils auront envie de s'abreuver. Le premier chant, qui est signalé à la page 86, s'intitule « Wapa'atotaheta » ou bien « Wapa'atotaheta », ce qui pourrait signifier « ceux qui sont pour Taheta » ou « ceux qui sont du clan de Taheta » ou « ceux qui appartiennent à Taheta » sont secs ou alors sont sous bonne garde. Dominique Pechberti nous explique qu'il s'agit d'une cérémonie autour d'un ennemi tué au combat ou d'un parent sacrifié pour apporter la fertilité. C'était un des rares cas où des parents étaient sacrifiés. En effet, lorsque quelqu'un, même de votre famille, avait maudit un arbre à pain parce qu'il ne donnait pas de fruits, c'était une infraction au tabou. Le grand prêtre Tawa en était informé, et comme il y avait des témoignages directs, la personne qui avait enfreint le tabou, qui avait insulté l'arbre à pain, était souvent assassinée et transformée en victime sacrificielle pour effacer cette insulte à l'arbre à pain. Taheta est un dieu qui préside aussi à la pluie. Wapa, Wapa'a est le nom qu'on donne à la victime lorsqu'elle est presque sèche, Pa'a. Lors de la danse, autour du sacrifice, les gens sont assis et battent dans les mains. Le Tawa chante « Tenez la pelle de la rame en haut, tenez la pelle en bas, frappez à droite, frappez à gauche. C'est mon parent, pourquoi l'ai-je tué ?» Ça se réfère à ce que je viens de vous dire à propos des parents qui étaient tués s'ils avaient insulté un arbre à pain. Les rames qui frappent sont un symbole de fertilité, comme la pluie qui frappe le sol. Dans son journal, Edward Robarts raconte au moins deux occurrences de ce sacrifice familial dont il a été le témoin visuel et dont il connaissait les victimes personnellement. Le deuxième chant, à la page 86, s'intitule « Pupuvaka », ce qui fait référence à un groupe de pirogues ou de rameurs. Un certain poisson, nommé Tekokoama, ayant possédé sexuellement une femme Akutiha, celle-ci lui demanda pour tout salaire, Tukitoe, la chanson qu'elle lui avait entendue chanter dans l'eau. À ce moment de la cérémonie, la victime, attachée à une perche, a déjà un hameçon en bois de fer dans la bouche, amarré à une corde de 3 brasses de long, c'est-à-dire environ 5 mètres. Après le chant, on lui met des hameçons dans les yeux, les oreilles et le nez. Les jeunes gens destinés à devenir tuhukaooko, les prêtres bardes et chantres, tiennent le milieu des différentes lignes, tandis que les vieux tuhuka en tiennent l'extrémité. La part qu'ils prennent au sacrifice leur donne le droit d'assister à une fête où l'on mange du porc, et qui est nommée Koumetao, manche d'hameçon. Pendant ce temps, les assistants ne dansent pas, mais sont assis alentour. Les femmes peuvent y assister sans participer. Après le chant, on détache la victime de la perche. Tout le monde s'assied autour d'elle en chantant et en frappant des mains, accompagné du tambour pahu. La victime étant assimilée à un poisson Ika, on lui plante différents hameçons dans le corps et on la redresse comme si on sortait un poisson de la mer. Ce geste semble cohérent dans la mesure où, pour les marquisiens, la vie trouve son origine dans la mer et la pêche constitue une source d'alimentation essentielle,
au même titre que le Tumumei, l'arbre à pain.
Le troisième chant, page 89, s'intitule Aku Akatu ou Ako Hakatu. Le deuxième titre est plus vraisemblable. Un Ako est un rouleau de bois ou un tronc de bananier servant à la mise à l'eau des pirogues vaca. Différents chants sont entonnés au moment où l'on soulève de terre la victime.
Le verbe élever, redresser, se dit Hakatu, Haatu en marquisien.
De même, sur le trajet qui mène à la fête Koika, la victime étant attachée à une perche. Un autre chant est entonné à l'arrivée sur la place Tohua, sur lequel, après les incantations du Tawa, on dépose la victime. Le Tawa tient une palme de cocotier à la main. Il crie « Ava'a, réveille-toi !» et tous lui répondent « Hi !» par trois fois. Le Tawa lance une autre incantation et tous répondent « Hu !» par trois fois. La victime représente alors un rouleau de bois à ako qui sert à mettre à l'eau ou à tirer la pirogue avec laquelle on a été chercher la victime. Cette victime rouleau est sacrée et on lui attribue même un nom. Dominique Pechberti pense que le rouleau Ako représente la victime au service du chef. À Tahiti, des victimes servaient de Ako pour la mise à l'eau des pirogues des chefs Ari'i. Le quatrième chant, page 91, s'intitule Hamihune. On a déjà parlé de cette cérémonie. Le Hami, c'est le pagne traditionnel des hommes marquisiens. Il est roulé autour de la ceinture en passant entre les cuisses. Au cours de l'émission traitant du tapu, nous avions vu que la partie pendant par derrière se nommait hi-hi-hi-hi ou to-ve-o et que celle pendant par devant se nommait ko-tapu, le côté tapu. Le hamihi-apo, pagne de tapa rouge-brun en fibre d'écorce de jeune banyan, était réservé au fils premier-né du chef. Il lui était remis au cours de son enfance pendant une cérémonie nécessitant un certain nombre de victimes, ici quatre. Le verbe « hune » est réservé à l'action de ceindre son pagne pour un homme. Il s'agit donc ici de la cérémonie au cours de laquelle le chef, ou le prêtre Tawa, remet son pagne de banyan Hamihiapo au fils premier-né du chef, et on installe le pagne autour de la ceinture de l'enfant. Le Tawa entonne alors un chant qui annonce la mort de quatre victimes étranglées avec une corde d'hibiscus de mer, hao, ou burao, purao en tahitien.
La cérémonie du « hamihune » était immédiatement suivi d'une autre nommée Hakahe'e, littéralement faire aller, faire marcher, mettre en route, que le père Siméon Delmas nous décrit à la page 64 de son ouvrage La religion ou le paganisme des marquisiens. Vous vous souvenez des deux extrémités du ceinturon Hami, le Toveo et le Kotap. En cette occasion, elles sont si longues que formant deux fils, les membres de la famille du fils du chef peuvent les placer sur leur tête en signe de respect et suivre la procession triomphale de l'enfant tandis qu'un prêtre Tuhuka les accompagne en récitant la généalogie de celui-ci.
Chers amis, comme signalé en début de chaque émission, cette série est la quatrième version depuis 2016. Chaque année qui passe apporte son lot de nouveaux éclairages sur le passé des îles Marquises. Et la publication du journal marquisien d'Edward Robarts, en septembre 2018, vient apporter sa part de nouveautés magnifiques. En effet, page 272 apparaissent les paroles et la partition d'un chant rouhou marquisien relevé en 1804 par messieurs Tilesius et Langsdorff, qui faisaient partie de l'expédition russe du commandant Krusenstern. En 2009, Michael Koch fit de cette partition une étude approfondie intitulée « Le chant cannibale des Nukahiviens » que l'on peut télécharger gratuitement sur la page internet des éditions Hairepo de Tahiti. Lors du Salon du Livre de Tahiti, en novembre 2018, un ami musicien a déchiffré et chanté devant moi ce chant rouhou jamais entendu depuis 214 ans. J'espère qu'un jour, vous aurez aussi la chance de l'entendre.
Nous terminerons par un ultime extrait de Greg Denning. La victime humaine se devait de mourir par mort violente, celle qui sous-tendait toutes les traditions. Cette mort violente se trouvait dans les divisions tribales, dans les différences sociales entre le Kikino et l'homme tapu. La mort violente confortait les lignages généalogiques et la position du chef. C'est encore de la mort violente que l'homme tirait son identité de Tohua, de guerrier. La mort violente tenait un rôle dans l'instauration de l'ordre, du statut social et de l'identité. Mais elle avait aussi un rôle néfaste, en entretenant une atmosphère de crainte et de sorcellerie menaçante dans la vie de chaque jour, isolant ainsi les individus sur lesquels elle pouvait s'abattre à chaque instant. Chers amis, c'est avec cette vision de mort violente que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Heureusement, aux Marquises, Sacrifices humains et cannibalisme font désormais partie du passé lointain de l'archipel, sur lequel seuls de nombreux ouvrages et des émissions comme celle-ci permettent encore de se pencher. Ne manquez pas la prochaine émission au cours de laquelle nous reprendrons le fil de l'histoire des îles Marquises, en commençant par la décennie 1810, marquée par de sévères sécheresses entraînant de tragiques famines. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook TEO et sur mon site internet teo.com. Rappelez-vous, si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail copo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. Et merci au groupe de danse de Nukuhiva pour les extraits de son Hakamanu présenté lors du Festival des Arts des Îles Marquises de 2011
en nocturne sur le site Tea Itu de Taipivai à Nukuhiva.
À bientôt, à Pai, au Oahu.